D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzier. C'est 14, la guerre de 14. Un homme est mobilisé. Cet homme, c'est un intellectuel, un rêveur, un philologue. Dans son pactage, il décide d'emporter une grande œuvre de la littérature qui l'aidera à traverser le mur de brutalité qu'est la guerre. Il choisit l'Iliade. Et Joseph Vandriès, puisque c'est son nom, ne trouve d'édition décente que dans une maison d'édition allemande. L'édition française de livres de l'Antiquité avait beaucoup dégénéré depuis le 19e siècle. Aucune collection spécifique ne leur était dédiée. Ce qui existait, c'était des traductions vieillies et mal faites. Notre intellectuel se voit obligé d'emporter son Iliade dans une édition allemande, car une grande maison allemande éditait alors les classiques de l'Antiquité. Il en est choqué, on pourrait même dire vexé. Comment ? Notre ennemi, l'Allemagne, fait mieux que nous ? Et je suis symboliquement obligé de baisser le front devant elle ? Alors, partant pour cette autre Iliade que serait la guerre de 14, une guerre d'attente interminable et meurtrière, notre philologue, rejoint par quelques amis, se promet que, dès que les circonstances le permettront, ils répareront tout ça. C'est ainsi que trois choses naîtront de cette prise de conscience : une association, une maison d'édition et une collection. L'association, c'est dès 1917, l'association Guillaume Budet. La maison d'édition, c'est deux ans plus tard, en 1919, les Belles Lettres. La collection, c'est celle qui, aux Belles Lettres, éditera les classiques de la littérature grecque et latine dans des éditions bilingues, la célèbre collection Budet. Et c'est en 1920 qu'elle a été créée. J'ai été éditeur pendant plusieurs années aux Belles Lettres et je dois ajouter que c'est une maison qui publie aussi de la littérature française et contemporaine. J'ai par exemple créé la collection Brique qui publie précisément de la littérature contemporaine, une collection consacrée à la nouvelle ou des anthologies de poésie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les fondations même de cette maison d'édition, le socle prestigieux qui a permis tout le reste, la collection Budet. Tous ceux qui ont fait du latin et du grec pendant leurs études ont eu entre les mains ces célèbres volumes, ceux de la série grecque, qui sont de couleur jaune et à l'insigne de la chouette de la déesse Athéna, et ceux de la série latine, de couleur rose et à l'insigne de la louve romaine, imprimés sur un vélin crème de Guyenne 80 grammes, spécialement fabriqué pour la collection. Je reçois pour en parler aujourd'hui le directeur de la série latine, Jean-Louis Ferrari. Il est également directeur d'études à l'école pratique des hautes études et membre de l'Institut. Jean-Louis Ferrari, une petite précision, je crois que je viens de commettre une erreur un peu grossière en disant la collection Budet, car tout le grand public dit collection Budet, mais je crois que les gens des Belles Lettres et de votre collection appellent ça la CUF, non ?
Alors le titre officiel, c'est en effet la collection des universités de France, ce qui donne CUF, mais c'est une collection qui paraît sous le patronage de l'association Guillaume Budet, d'où l'appellation traditionnelle, et qui ne me choque absolument pas, de collection Budet. Dans le récit que vous avez donné, c'est la légende dorée de la collection, c'est-à-dire que l'anecdote n'est pas prouvée, mais le fond est tout à fait exact. Il y a une réunion en 1916 de professeurs qui aboutit à la publication d'une espèce de manifeste appelant à la création de ces collections et appelant à ce qu'une maison d'édition s'en charge. Ce qui n'était pas prévu alors, c'est que les universitaires ne trouveraient pas une maison d'édition existant déjà pour accepter de publier ces deux collections, et qu'il a fallu non seulement créer les collections, mais créer aussi la maison d'édition.
Pardonnez-moi, quand vous dites manifeste, il a été publié où ? Dans la grande presse ?
Pas dans la grande presse, il a été publié dans la revue des études grecques. Ceci dit, ça a dépassé quand même le contexte, le cercle étroit des universitaires et des professeurs, et en particulier lorsqu'il s'est agi de créer la Société des Belles Lettres. Ça s'est fait, bien entendu, avec le mécénat actif d'un certain nombre de personnalités du monde économique.
Alors, justement, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ces gens-là ont donc démarché des maisons d'édition existantes qui auraient refusé de créer la collection.
Apparemment, ils n'ont pas trouvé une maison qui fût disposée à publier ces collections comme ils le désiraient. c'était quelque chose qui n'allait pas forcément de soi, parce qu'il y avait traditionnellement, d'une part, des collections scientifiques qui donnaient un texte seul, sans traduction, et en tenant, je dirais, à ce qu'il n'y ait pas de traduction, je vais vous donner une petite anecdote après, et d'autre part, des collections destinées à un public plus vaste, mais qui n'avaient pas la même exigence de qualité d'édition de texte, et par exemple, une très belle collection qui avait été donnée en France au 19e siècle, la collection Dido, se contentait de donner une traduction latine des textes grecs. L'anecdote que je voulais vous citer ne concerne pas la collection Budé, elle concerne une collection américaine, bien connue elle aussi, la collection Loeb, fondée par un banquier américain d'origine allemande, c'était un cousin d'Abby Warburg, et qui finit par s'établir à Munich, mais qui fonde la Loeb Classical Library. Et qui la fonde alors qu'il est déjà établi à Munich. Et il fait part de son désir au plus grand philologue allemand alors vivant, qui est Wilamowitz. Et Wilamowitz lui répond, mais mon pauvre ami, personne ne lira les traductions des auteurs qui ne sont pas des auteurs classiques. Et d'autre part, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que si les gens commencent à avoir des éditions avec traduction, ils finiront par perdre l'habitude d'être capables de traduire eux-mêmes. 30 ans après, le même Wilamowitz a écrit une autre lettre à Loeb pour lui dire finalement vous aviez raison, c'était une bonne idée, mais il n'empêche que les collections allemandes, les grandes collections allemandes, la collection Teubner, est restée une collection sans traduction et qu'inversement, la collection Loeb de cette époque est une collection qui donnait le texte des éditions de la Teubner avec une traduction anglaise.
Je crois, monsieur, qu'il y a trois grands concurrents dans aux belles lettres. C'est-à-dire qu'il y a à la fois Teubner, qui est cette maison allemande dont nous parlions, qui date, je crois, de 1850. Loeb, qui a été fondé par la suite aux États-Unis, n'est-ce pas? Puisque je crois qu'il y a eu un Lay.
Un Lay à Harvard University.
Et il y a Oxford aussi.
Et il y a Oxford, qui donne également uniquement des textes sans traduction.
Quand vous disiez que à la fin de la guerre et que quand la maison d'édition a été fondée, vous avez dit qu'ils ont été aidés par des gens du monde économique. Et je voudrais que vous m'expliquiez un peu ça, parce que je trouve assez merveilleux que des gens, que j'imagine des chefs d'entreprise, finalement offrent de l'argent pour investir dans une maison d'études classiques, chose qu'on ne reverrait probablement pas aujourd'hui.
Oui, il faut bien dire que le contexte était différent. Tous les grands dirigeants d'entreprise avaient reçu une formation classique au lycée avant de reprendre une entreprise ou d'en fonder une. Le caractère nécessaire de la connaissance de cet humanisme, de cette tradition des littératures latines et grecques était reconnu. Et dans le contexte, car il ne faut pas l'oublier, dans le contexte où l'entreprise était présentée comme un devoir national, précisément pour s'affranchir de l'hégémonie allemande, les deux éléments concouraient et expliquent une générosité qui serait sans doute plus difficile de concevoir maintenant. D'une part, une sorte de symbiose entre l'éducation des humanités et l'ensemble du monde politique et économique de l'époque, et d'autre part, un patriotisme qui était naturellement, dans les années 1917-1920, particulièrement actif.
Alors, je crois que les premiers volumes sont un volume de Platon, vous me démentirez si je me trompe.
Non, le premier volume grec, vous avez tout à fait raison, c'est le premier tome de la publication de Platon, et il est dû à Maurice Croizet.
Et c'est Lippias Mineur, n'est-ce pas?
C'est Lippias Mineur, oui.
Et pour le latin?
C'est le Lucrèce d'Alfred Ernoux, c'est le premier volume du Lucrèce.
Du Natura Rerum.
Voilà.
Et ça, c'est en 1920. Alors, depuis 1920, combien votre collection, monsieur, a publié de volumes, et grecs et latins, donc dans ces éditions bilingues?
Depuis 1920, il y a quand même de quoi être fier, puisque actuellement, la série grecque compte 490 volumes, et la série latine en compte 404, ce qui nous fait en tout 894 volumes, c'est-à-dire une moyenne de presque 10 volumes par an. Naturellement, il y a eu des périodes, des creux, il peut y avoir des creux à un moment ou à un autre pour des raisons diverses.
Mais... Et quelle est, pour la datation, si je puis dire, quel est le principe d'édition de la collection? À quel moment, parce qu'après tout, on a écrit en latin jusqu'au XVIIIe siècle assez couramment, est-ce que vous publierez du latin du XVIIIe siècle?
Alors, du XVIIIe siècle, certainement pas, et même pour le latin, nous allons à peu près jusqu'au VIe siècle. Il y a des auteurs qui sont À la limite, Isidore de Séville est publié dans une autre collection, patronnée par l'association Guillaume Budet, aux belles lettres, qui est la collection auteurs latins au Moyen-Âge. Mais Isidore aurait très bien pu trouver sa place parce qu'il est justement l'un des passeurs de la tradition antique vers ce qui va devenir ce que nous appelons le Moyen-Âge.
Donc, pourquoi le VIe siècle en particulier? C'est ce moment-là où...
Le VIe siècle, c'est ce qui précède la période sombre où il y a les grandes pertes en Occident, en particulier. La chronologie n'est pas tout à fait la même pour le monde grec. Mais pour l'Occident, c'est le moment où sombre tout un pan de la tradition et où sont perdues des œuvres en très grand nombre avant la Renaissance carolingienne, qui est la première des Renaissances. Et il y a donc, à côté de la série latine de la CUF, la série à la Louve, qui va donc jusqu'au 5e siècle absolument, au début du 6e siècle, il y a les auteurs latins du Moyen-Âge, et puis il y a une autre collection qui est très importante aussi, qui sont les classiques de l'humanisme, et qui, précisément, donnent des textes, alors, du 14e au 16e siècle, à partir de Pétrarque, c'est-à-dire une autre Renaissance, qui commence plus tôt qu'on ne le pense généralement, en particulier en Italie, et qui est une autre période d'un point de vue particulier strictement littéraire de sommet du latin.
Donc pour en revenir à la collection Budet et au latin et au grec, voulez-vous me dire comment on peut, puisque tout a été perdu je crois, reste-t-il un seul manuscrit authentique ou un seul livre authentique de l'Antiquité ?
Ce qui reste le plus proche concerne un philosophe du 1er siècle avant notre ère, Philodème de Gadara, qui était un philosophe protégé par un grand aristocrate romain, Pison, qui a été un adversaire, puis une connaissance de Cicéron. Et il se trouve que, grâce à une catastrophe naturelle, qui est celle qui a enseveli Pompéi et Herculanum, on a retrouvé dans une villa d'Herculanum, qu'on appelle la villa des papyrus, une bibliothèque essentiellement grecque, avec des papyrus, et avec une masse considérable d'œuvres de Philodème. Là, nous avons, non pas, nous ne pouvons pas savoir si nous avons la main de Philodème, faute d'avoir des preuves, mais nous avons la bibliothèque constituée par un auteur et comprenant les œuvres de cet auteur. C'est un cas unique, naturellement, dû à des circonstances exceptionnelles, et où nous approchons de ce qui serait la consultation des manuscrits d'un auteur pour l'éditer. Ce qui ne rend pas forcément l'édition facile, puisque si cette bibliothèque a été miraculeusement conservée, inversement, les papyrus sont dans un état particulièrement difficile dû à ce qu'ils ont subi du fait de l'éruption.
Et donc, pour les autres auteurs, les textes sont établis à partir de
Pour les autres auteurs, les textes sont établis dans quelques cas, à partir de papyrus, et là, il y a une plus grande proximité temporelle entre les témoignages et les auteurs, et la redécouverte par les papyrus de pans entiers de la littérature grecque est quelque chose qui a beaucoup marqué.
Quand vous dites les papyrus, ça veut dire quelle époque ?
Alors, les papyrus sont donc du 3e siècle avant notre ère jusqu'au 6e siècle à peu près.
Et qui, en fait, pardon de vous interrompre, ont pu probablement être conservés grâce au climat sec de l'Égypte,
alors,
c'est ça ?
C'est bien entendu le climat qui en a permis la conservation. Et ils sont conservés, ils sont parfois réutilisés. La Constitution d'Athènes, qui est un texte d'Aristote dont la découverte est un fait marquant, a été trouvée au dos de documents comptables, et il y a souvent comme si un mélange de textes littéraires et de textes qu'on appelle documentaires.
Et donc, et après, pour les autres textes, sont des, je crois, des redécouvertes de la Renaissance, n'est-ce pas ?
On n'est pas obligé de remonter jusqu'à la Renaissance. Il y a, à partir de l'époque carolingienne, pour l'Occident, alors cette fois-ci, nous allons plutôt pour l'Occident, à partir de l'époque carolingienne, une volonté de retrouver et de conserver des textes. Les grandes pertes sont passées, déjà. Et puis, il y a ensuite, alors, une véritable chasse aux manuscrits, qui commence avec Pétrarque, qui est favorisé ensuite par le fait que la cour pontificale se déplace au gré de luttes et de l'exil d'Avignon ou des conciles, et que tous les lettrés qui sont autour des papes en profitent, en particulier profitent des conciles de Bâle et de Constance, pour essayer de retrouver dans les bibliothèques monastiques, car c'est là qu'ils étaient, des manuscrits qui étaient totalement abandonnés, et c'est une grande période, en effet, de redécouverte des textes classiques.
Monsieur Ferrari, je voudrais que vous me disiez si on continue de nos jours à trouver des textes anciens.
Alors, on continue à trouver des textes anciens, naturellement, de plus en plus rarement, parce que les bibliothèques commencent à être inventoriées, mais récemment a été redécouvert un manuscrit de Galien, qui n'était pas connu.
Dites à l'ignorant que je suis qui est Galien.
Galien est un médecin, mais en même temps un médecin philosophe du IIe siècle de notre ère. C'est un auteur extrêmement important que nous commençons à publier dans la CUF, dans la série grecque de la CUF. Et un texte passionnant, Ne pas se chagriner, qui est un texte écrit par Galien pour expliquer qu'ayant perdu une partie considérable de sa bibliothèque et des produits les plus rares de sa pharmacopée à cause d'un des incendies de Rome, malgré tout, il parvient à maîtriser la douleur causée par cette perte.
Nous allons maintenant entendre une grande spécialiste de la littérature antique, une helléniste plus précisément, qui a disparu il y a 2 ans. Je veux bien sûr parler de Jacqueline de Romilly. La voici dans À voix nue, le 20 septembre 2000. Elle explique la naissance de la démocratie à Athènes.
Il est frappant de voir que déjà dans une épopée comme l'Iliade ou comme l'Odyssée, les gens discutent, les gens ont des discours suivis pour débattre des idées, des principes, qu'est-ce qu'on va faire, les dieux eux-mêmes discutent et débattent, comme fera la démocratie athénienne. Et c'est peu à peu que l'idée se précise et se forme. Alors là, je vous cite Homère, on est au 8e siècle avant Jésus-Christ, on parle des dieux qui sont peut-être encore avant, si j'ose dire, mais peu à peu, l'idée va se former qu'on doit discuter, et cela commence à se marquer à Athènes avec Solon, par exemple, et puis ils font l'expérience de la tyrannie, et puis commence la démocratie, et ils prennent conscience de ce que c'est dans l'opposition avec le roi de Perse, qui est un pouvoir absolu. Et l'idée que là, c'est leur originalité. Mais en quoi est-ce que ça consiste? Et chacun se met à discuter, à préciser en quoi consiste la démocratie. Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? J'ai peut-être déjà cité cet extraordinaire débat qui est dans une pièce de Ripide où on voit simplement, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais on demande qui est le maître ici, on dit il n'y a pas de maître, c'est le peuple. Alors on discute sans grande raison tous les avantages, tous les inconvénients des deux régimes. Parce qu'il ne faut pas croire que les Athéniens ont toujours été en admiration devant leur démocratie. Ils l'ont attaquée, ils en ont vu les défauts. Et peu à peu, l'idée s'est précisée. On a vu les objections, on a tenté d'y répondre. On a vu que le peuple jugeait sans être très bien éclairé et qu'il était en proie à des passions. Ça aboutit à ce que Aristote, au IVe siècle, dira que il y a aussi une tyrannie du peuple si on ne l'éclaire pas et s'il ne juge pas avec modération. On a découvert qu'il y avait les démagogues et comment faire. Alors c'est là que Démosthène au IVe siècle a pris conscience de ce qu'il fallait que les chefs du peuple ne flappent pas le peuple, mais aient le courage de parler pour le mieux. L'idée s'est précisée en même temps qu'on rencontrait les difficultés. Et c'est pour ça que j'ajoute, c'est un début, on voit apparaître ça dans Homère, mais un débat, parce que peu à peu, chacun rectifie. «
Alors Jean-Louis Ferrari, la vie des savants est parfois telle que leur vie privée s'y mélange, puisque je crois que c'est aux belles lettres que Jacqueline de Romilly a rencontré son mari Michel de Romilly. Et dans un texte qu'elle a écrit sur son de souvenirs, elle dit « Je ne voyais pas de tâche plus belle que de travailler à éditer un auteur pour la collection Budé ». Je crois qu'un de ses premiers textes édités a été un Thucydide.
Oui, elle a donné l'édition de « La guerre du Péloponnèse » de Thucydide. Et elle a été très attachée à l'association Guillaume Budé, qu'elle a présidée et dont elle était présidente d'honneur.
À ce sujet, je voudrais que vous me parliez d'une chose qui est, je crois, très importante pour la collection Budé. Ce sont ses traducteurs, car il y a parfois de grands traducteurs. On vient de parler de Jacqueline de Romilly, mais est-ce que vous voudriez nous dire un mot de Paul Mazon ?
Alors, Paul Mazon a joué un rôle décisif. Paul Mazon n'a pas été l'un des signataires de cet appel dont je vous ai parlé.
Pourquoi ?
Pour la raison extrêmement simple qu'il était à ce moment-là, il avait été fait prisonnier en 1914. Malade, il avait pu être conduit en Suisse. Il était encore en Suisse en 1917. Mais dès qu'il revient...
Pardonnez-moi, quel était son... Il était professeur ?
Il était maître de conférence à la Sorbonne, c'est-à-dire professeur maintenant, simplement... Les grades ont vu leur définition changer un peu. Il était professeur à la Sorbonne, c'est un très grand helléniste, et qui, à ce moment-là, a joué un rôle absolument décisif, sacrifiant le secrétariat général de l'association pour l'encouragement des études grecques, qu'il devait exercer, pour devenir le secrétaire général de l'association Guillaume Budé, en ayant à ses côtés un helléniste et un latiniste, le latiniste étant Alfred Ernoux, le traducteur de Lucrèce dont nous avons déjà parlé. Et Paul Mazon sera à la fois, tant que ce sera possible, le président du conseil d'administration de la Société des Belles-Lettres, et d'autre part, jusqu'à sa mort, en 1955, il restera le secrétaire général de l'association Guillaume Budé et, je dirais surtout, le directeur des deux séries, latine et grecque. C'est à sa mort seulement que chaque série recevra quelqu'un, un directeur, pour s'en occuper.
Et en tant que traducteur, quel a été son apport ? Je crois que sa traduction d'Eschyle, en particulier,
alors,
est un grand
moment.
Alors,
il y a deux grandes traductions de Mazon aux belles lettres. Eschyle, qui a été la première, et puis l'Iliade aussi, et j'allais oublier Hésiode.
Alors, à propos des traductions des belles lettres, tous les professeurs, comme vous le savez, passaient leur temps à corriger les corrections Budé, parce que le grand amusement de tous ces gens était de corriger les traductions et de dire que parfois elles étaient fautives. Alors, racontez-moi, quelle évolution il y a eu dans les traductions ? D'une part, est-ce que au fur et à mesure, les éditions ont été changées et vous avez fait de nouvelles traductions ? D'autre part, certaines traductions sont-elles suffisamment prestigieuses comme celle de Mazon ou bonnes pour qu'elles ne changent pas ? Et je vous poserai après une troisième question sur la bienséance des traductions.
Bon. Alors, en ce qui concerne les inexactitudes, il est bien évident que toutes les éditions de la collection ne sont pas du même niveau et qu'une collection qui a le nombre de volumes que je vous ai indiqué tout à l'heure ne peut pas atteindre de façon constante l'excellence. Il y a des traductions qui restent de très grande qualité. Il y en a d'autres qui, pour des raisons diverses, peuvent être considérées maintenant comme insuffisantes. Ça peut être à cause d'un reste au départ cette conception un peu de la belle infidèle. C'est la difficulté, si vous voulez, c'est que ce n'est pas la même chose de donner une traduction seule où l'importance de la beauté du texte est une exigence absolue et de donner une traduction sur la page de gauche d'un texte.
Pardon de vous interrompre, il faut expliquer qu'évidemment vos éditions sont bilingues, mais que sur ce qu'on appelle la belle page, c'est-à-dire celle qu'on voit le mieux, qui est la page de droite, le texte antique est imprimé, et vis-à-vis, sur la page de gauche, la traduction.
C'est cela. Et c'est bien le texte grec ou latin qui est sur la belle page, c'est-à-dire c'est lui qui est le texte essentiel. Il y a la traduction avec cette idée dès le départ qui est très juste, que la traduction avait deux finalités, qui étaient de permettre d'atteindre un public plus large que les éditions qui ne donnaient que les textes anciens, mais aussi d'être une première interprétation. Car c'est dans le texte même de la déclaration de 1917, il est souligné que une traduction, c'est déjà prendre parti. Et puis, ce qui probablement est le plus fréquent dans les éditions, en particulier un peu anciennes, c'est qu'il s'agissait d'un travail fait par des littéraires sans toujours avoir une conscience aussi vive que on l'a maintenant de l'importance du contexte historique, des réalités historiques, juridiques. C'est cette idée que j'ai entendue quand j'étais assistant de latin encore exprimée, qu'il y a deux types de contresens, les contresens syntaxiques qui sont hautement condamnables et les contresens qui le seraient moins parce qu'ils sont simplement contraires à ce qu'exige ce que nous savons d'autre part du droit ou de l'histoire d'une époque. Alors c'est de ce point de vue-là que parfois, en effet, certaines des éditions les plus anciennes pêchent un peu et c'est ce qui nous amène à relancer de nouvelles traductions.
Pardonnez-moi de vous interrompre, je voudrais qu'on finisse là sur la série grecque, puisque nous parlions à la suite de Jacqueline de Romilly, plus particulièrement des Grecs. Quels sont les auteurs grecs dont la publication est achevée dans la collection, dans la série grecque, et quels sont ceux qui sont encore en cours d'achèvement?
Alors, sont pratiquement achevés les grandes séries de classiques. Tout le théâtre est achevé, les trois grands tragiques, Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristophane, pour la période classique. Les orateurs attiques sont publiés. Pour les historiens, Hérodote et Thucydide sont publiés. Il était bien dit par ceux qui avaient le projet de publication que l'ensemble de la littérature grecque devrait être publiée. Simplement, il y avait une préférence. Et cette préférence allait naturellement aux auteurs classiques et archaïques. Depuis, il y a eu des progrès importants concernant l'époque hellénistique, celle qui a été la plus fortement marquée par les grandes découvertes papyrologiques dont nous avons parlé. Et puis, il y a eu surtout un intérêt nouveau pour une littérature extrêmement abondante, qui est la littérature grecque d'époque romaine. Et là, il faut bien dire qu'il y avait une espèce de mépris pour cette littérature, à l'exception de Plutarque, qu'elle était considérée comme une littérature d'apparat sans grande qualité, et que maintenant, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une littérature extrêmement importante et qui est publiée de plus en plus souvent dans notre collection.
C'était Secret professionnel, le 59e. Comme on ne peut pas épuiser en une demi-heure des siècles de littérature et une collection aussi importante que la collection Budet, je vous propose, Jean-Louis Ferrari, de poursuivre notre conversation la semaine prochaine. Réalisation Clotilde Pivin. Attachée d'émission, Catherine Donnet. Mixage, Delphine Baudet. Recherche INA, Catherine Louis. Dans un instant, Ville Monde.